Honoré de Balzac. La maison Nucingen. À Madame Zulma Caro. N'est-ce pas vous, madame, dont la haute et probe intelligence est comme un trésor pour vos amis, vous qui êtes à la fois pour moi tout un public et la plus indulgente des sœurs à qui je dois dédier cette œuvre. Daignez l'accepter comme témoignage d'une amitié dont je suis fier. Vous et quelques âmes, belles comme la vôtre, comprendront ma pensée en lisant la maison Nucingen, accolée à César Birotteau. Dans ce contraste, n'y a-t-il pas tout un enseignement social? Vous savez combien sont minces les cloisons qui séparent les cabinets particuliers dans les plus élégants cabarets de Paris, chez Véry, par exemple. Le plus grand salon est coupé en deux par une cloison qui saute et se remet à volonté. La scène n'était pas là, mais dans un bon endroit qu'il ne me convient pas de nommer. Nous étions deux. Je dirais donc, comme le prud'homme de Henri Monnier, je ne voudrais pas la compromettre. Nous caressions les friandises d'un dîner exquis à plusieurs titres dans un petit salon où nous parlions à voix basse, après avoir reconnu le peu d'épaisseur de la cloison. Nous avions atteint, au moment du rôti, sans avoir eu de voisin dans la pièce contiguë à la nôtre, où nous n'entendions que les pétillements du feu. 8 heures sonnèrent. Il se fit un grand bruit de pieds. Il y eut des paroles échangées. Les garçons apportèrent des bougies. Il nous fut démontré que le salon voisin était occupé. En reconnaissant les voix, je sus à quel personnage nous avions affaire. C'étaient 4 des plus hardis cormorans éclos dans l'écume qui couronnent les flots incessamment renouvelés de la génération présente, aimable garçon dont l'existence est problématique, à qui l'on ne connaît ni rente ni domaine, et qui vivent bien. Ces spirituels condottieri de l'industrie moderne, devenue la plus cruelle des guerres, laissent les inquiétudes à leurs créanciers, gardent les plaisirs pour eux, et n'ont de soucis que de leurs costumes. D'ailleurs braves à fumer comme Jean Bart, leurs cigares sur une tonne de poudre, peut-être pour ne pas faillir à leur rôle. Plus moqueurs que les petits journaux, moqueurs à se moquer d'eux-mêmes, perspicaces et incrédules, fureteurs d'affaires, avides et prodigues, envieux d'autrui, mais contents d'eux-mêmes, profonds politiques par saillie, analysant tout, devinant tout, ils n'avaient pas encore pu se faire jour dans le monde, où il voudrait se produire. Un seul des 4 est parvenu, mais seulement au pied de l'échelle. Ce n'est rien que d'avoir de l'argent, et un parvenu ne sait tout ce qui lui manque alors qu'après 6 mois de flatterie. Peu parleur, froid, gourmé, sans esprit, ce parvenu, nommé Andoche Finot, a eu le cœur de se mettre à plat ventre devant ceux qui pouvaient le servir, et la finesse d'être insolent avec ceux dont il n'avait plus besoin. Semblable à l'un des grotesques du ballet de Gustave, il est marquis par derrière et vilain par devant. Ce prélat industriel entretient un caudataire, Émile Blondet, rédacteur de journaux, homme de beaucoup d'esprit, mais décousu, brillant, capable, paresseux, se sachant exploiter, se laissant faire, perfide, comme il est bon, par caprice. un de ces hommes que l'on aime et que l'on n'estime pas. Fin comme une soubrette de comédie, incapable de refuser sa plume à qui la lui demande et son cœur à qui le lui emprunte. Émile est le plus séduisant de ces hommes-filles, de qui le plus fantasque de nos gens d'esprit a dit « Je les aime mieux en souliers de satin qu'en bottes ». Le troisième, nommé Couture, se maintient par la spéculation. Il hante affaire sur affaire. Le succès de l'une couvre l'insuccès de l'autre. Aussi vit-il à fleur d'eau, soutenu par la force nerveuse de son jeu, par une coupe roide et audacieuse. Il nage de ci, de là, cherchant dans l'immense mer des intérêts parisiens un îlot assez contestable pour pouvoir s'y loger. Évidemment, il n'est pas à sa place. Quant au dernier, le plus malicieux des quatre, son nom suffira. Bixiou. Hélas, ce n'est plus le Bixiou de 1825, mais celui de 1836. Le misanthrope bouffon à qui l'on connaît le plus de verve et de mordant, un diable enragé d'avoir dépensé tant d'esprit en pure perte, furieux de ne pas avoir ramassé son épave dans la dernière révolution, donnant son coup de pied à chacun, en vrai Pierrot des funambules, sachant son époque et les aventures scandaleuses, sur le bout de son doigt, les ornant de ses inventions drôlatiques, sautant sur toutes les épaules comme un clown, et tâchant d'y laisser une marque à la façon du bourreau. Après avoir satisfait aux premières exigences de la gourmandise, nos voisins arrivèrent où nous en étions de notre dîner, au dessert. Et, grâce à notre couette tenue, ils se crurent seuls. À la fumée des cigares, à l'aide du vin de champagne, à travers les amusements gastronomiques du dessert, il s'entama donc une intime conversation. Empreinte de cet esprit glacial, qui roidit les sentiments les plus élastiques, arrête les inspirations les plus généreuses et donne au rire quelque chose d'aigu, cette causerie pleine de l'âcre ironie qui change la gaieté en ricanerie, accusa l'épuisement d'âmes livrées à elles-mêmes sans autre but que la satisfaction de l'égoïsme, fruit de la paix où nous vivons. Ce pamphlet contre l'homme que Diderot n'osa pas publier, le neveu de Rameau, ce livre, débraillé tout exprès pour montrer des plaies, est seul comparable à ce pamphlet dit sans aucune arrière-pensée, où le mot ne respecta même point ce que le penseur discute encore, où l'on ne construisit qu'avec des ruines, où l'on nia tout, où l'on n'admira que ce que le scepticisme adopte, l'omnipotence, l'omniscience, l'omniconvenance de l'argent. Après avoir tiraillé dans le cercle des personnes de connaissance, la médisance se mit à fusiller les amis intimes. Un signe suffit pour expliquer le désir que j'avais de rester et d'écouter au moment où Bixiou prit la parole, comme on va le voir. Nous entendîmes alors une de ces terribles improvisations qui valent à cet artiste sa réputation auprès de quelques esprits blasés. Et, quoique souvent interrompue, prise et reprise, elle fut sténographiée par ma mémoire. Opinions et formes, tout y est en dehors des conditions littéraires. Mais c'est ce que cela fut, un pot-pourri de choses sinistres qui peint notre temps, auquel l'on ne devrait raconter que de semblables histoires, et j'en laisse d'ailleurs la responsabilité au narrateur principal. La pantomime, les gestes en rapport avec les fréquents changements de voix par lesquels Bixiou peignait les interlocuteurs mis en scène, devaient être parfaits, car ces trois auditeurs laissaient échapper des exclamations approbatives et des interjections de contentement. « Et Rastignac t'a refusé ?» dit Blondet à Finot. « Net. »« Mais l'as-tu menacé des journaux ?» demanda Bissiou. « Il s'est mis à rire, » répondit Finot. Rastignac est l'héritier direct de Feu de Marsay. Il fera son chemin en politique comme dans le monde, dit Blondet. Mais comment a-t-il fait sa fortune? Demanda Couture. Il était en 1819 avec l'illustre Bianchon dans une misérable pension du quartier latin. Sa famille mangeait des hannetons rôtis et buvait le vin du cru pour pouvoir lui envoyer 100 francs par mois. Le domaine de son père ne valait pas 1000 écus. Il avait 2 sœurs et 1 frère sur les bras, et maintenant, il a 40 000 livres de rente, reprit Finot. Chacune de ses sœurs a été richement dotée, noblement mariée, et il a laissé l'usufruit du domaine à sa mère. En 1827, dit Blondet, je l'ai encore vu sans le sou.
Oh, en 1827, dit Bixiou.
Eh bien, reprit Finot. Aujourd'hui, nous le voyons en passe de devenir ministre, pair de France et tout ce qu'il voudra être. Il a, depuis 3 ans, fini convenablement avec Delphine. Il ne se mariera qu'à bonnes enseignes, et il peut épouser une fille noble, lui. Le gars a eu le bon esprit de s'attacher à une femme riche.
Mes amis, tenez-lui compte des circonstances atténuantes, dit Blondet. Il est tombé dans les pattes d'un homme habile en sortant des griffes de la misère.
Tu connais bien Nucingen, dit Bissiou. Dans les premiers temps, Delphine et Rastignac le trouvaient bon. Une femme semblait être pour lui, dans sa maison, un joujou, un ornement. Et voilà ce qui, pour moi, rend cet homme carré de base comme de hauteur. Nucingen ne se cache pas pour dire que sa femme est la représentation de sa fortune, une chose indispensable, mais secondaire dans la vie à haute pression des hommes politiques et des grands financiers. Il a dit devant moi que Bonaparte avait été bête comme un bourgeois dans ses premières relations avec Joséphine et qu'après avoir eu le courage de la prendre comme un marchepied, il avait été ridicule en voulant faire d'elle une compagne.
Tout homme supérieur doit avoir sur les femmes les opinions de l'Orient, dit Blondet.
Le baron a fondu les doctrines orientales et occidentales en une charmante doctrine parisienne. Il avait en horreur de Marsay, qui n'était pas maniable. Mais Rastignac lui a plu beaucoup, et il l'a exploité sans que Rastignac s'en doutât. Il lui a laissé toutes les charges de son ménage. Rastignac a endossé tous les caprices de Delphine. Il la menait au bois, il l'accompagnait au spectacle. Ce grand petit homme politique d'aujourd'hui a longtemps passé sa vie à lire et à écrire de jolis billets. Dans les commencements, Eugène était grondé pour des riens. Il s'égayait avec Delphine quand elle était gaie, s'attristait quand elle était triste. Il supportait le poids de ses migraines, de ses confidences. Il lui donnait tout son temps, ses heures, sa précieuse jeunesse, pour combler le vide de l'oisiveté de cette Parisienne. Delphine et lui tenaient de grands conseils sur les parures qui allaient le mieux. Il essuyait le feu des colères et la bordée des boutades. Tandis que, par compensation, elle se faisait charmante pour le baron. Le baron riait à part lui. Puis, quand il voyait Rastignac pliant sous le poids de ses charges, il avait l'air de soupçonner quelque chose et reliait les deux amants par une peur commune.
« Je conçois qu'une femme riche ait fait vivre et vivre honorablement Rastignac, mais où a-t-il pris sa fortune ?» demanda Couture.
« Une fortune aussi considérable que la sienne aujourd'hui se prend quelque part. » Et personne ne l'a jamais accusé d'avoir inventé une bonne affaire.
Il a hérité, dit Finot.
De qui ? Dit Blondet.
Des sots qu'il a rencontrés, reprit Couture.
Il n'a pas tout pris, mes petits amours, dit Bissiou.
Remettez-vous d'une alarme si chaude, nous vivons dans un temps très ami de la fraude.